Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Un programme émaillé de rendez-vous haut en couleur, mais ça c'est Stéphane qui en parle le mieux.
Restez bien sur Europe 1, Historiquement vôtre, c'est quiz loufoque, des récits palpinants.
Des quiz loufoques, des récits palpinants et j'ajouterai un présentateur charismatique. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un jour, mais vous payerez pour toutes ces bassesses. Un jour, il y aura une loi qui interdira aux gens de radio de sortir des sons de leur contexte ou couper au montage.
Ouais, en attendant, un jour peut-être.
Bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, assez peu respectueux des gestes barrières aujourd'hui.
Oui Stéphane, puisque le point commun de nos trois personnages du jour, c'est d'avoir été amateur de baisers. Pas au sens où vous l'entendez vous, mais au sens plus romantique où je l'entends moi.
Je chante un baiser.
Oui, c'est comme ça que je l'entendais aussi, surtout quand c'est Souchon qui chante. En cette journée mondiale du baiser, nous réunissons aujourd'hui trois personnages qui ont fait un baiser, mais un et un seul. A commencer par le peintre Gustav Klimt, qui a travaillé plusieurs années pour nous offrir Le Baiser, un tableau célèbre dans le monde entier. Il ne nous l'a pas offert en réalité, mais il l'a vendu à l'État autrichien en 1908. Depuis, eh bien, c'est au palais du Belvédère de Vienne que l'on peut l'admirer en vrai. Lui, c'est devant l'hôtel de ville de Paris qu'il a immortalisé un baiser entre deux amoureux. Je vous raconte Robert Doisneau et la folle histoire de cette photo qui a fait le tour du monde. Quant à vous Mathieu, vous partirez à la recherche d'un chanteur qui faisait des bisous et qui fut surtout la plus grande star de Turquie. Mais il a un peu disparu depuis.
Qu'est-ce qu'on a pécho grâce à lui ? Emblème d'une Turquie un peu moins coincée du slip que celle d'Erdogan, 23 ans après son tube mondial, que devient Tarkan ?
Rien ou presque.
Rien ou presque selon Stéphane Bert, j'ai quand même enquêté un peu et la vérité, vous allez voir, est entre les deux.
Et avec nous, comme chaque jour, eh bien, il remonte aux origines d'une mode, d'un objet. Et aujourd'hui, eh bien, c'est lié quelque part au baiser avec vous, David Cassel-Lopez.
Je suis complètement lié au baiser, c'est le rouge à lèvres. Ah, hein, ouais. Depuis quand ça existe, le rouge à lèvres? Eh ben, je vous le saurez. Ça, c'est ancien.
Ah, oui, c'est très ancien. Je pense que Cléopâtre, elle s'en mettait sur les lèvres.
Vous ne pourrez pas appeler, avoir au téléphone la personne qui vous dise « j'ai inventé le rouge à lèvres, non, je suis non, bidule, voilà. J'ai inventé le rouge à lèvres ». Il n'y aura pas ce moment culte de votre chronique aujourd'hui.
Exactement.
Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Eh bien, moi, je vais évoquer un fils à sa mémère qui fut couvert de baisers. Vous savez que Sarah Bernhardt n'a eu qu'un grand amour dans sa vie, son fils unique Maurice. Et Maurice, lui, a eu deux amours, sa mère et l'argent de sa mère qu'il jetait par les fenêtres.
Voilà. Ah, avec nous aussi, lui, son seul amour, c'est la poule au pot. Bonjour Olivier Poul.
Oh, j'ai plein d'autres amours dans la cuisine.
Vous êtes un polyamoureux, vous. Hein.
Ça fait plaisir, la poule au pot, c'est quand même le plat voulu par Henri IV, tout le dimanche.
Si, en tout cas, c'est un plat qui est très lié à une célèbre déclaration d'Henri IV. Mmh. On verra si elle est tout à fait exacte ou pas. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un plat qui est originaire de la région d'Henri IV, mmh, c'est-à-dire le Béarn. Bien.
Enfin, c'est, les amis, un jeu rigolo, mais où, soyons clairs, les chances de gagner sont minimes.
Ah, bah oui, l'auto-patrimoine.
Non, l'autre jeu comme ça, Bern to be alive, ce fameux quiz qui permet aux auditeurs de réaliser qu'ils sont en fait aussi bons que vous en histoire.
Oui.
Rendez-vous aux alentours de 5h10.
Oui, c'est
vrai, c'est pas faux. Mais tout de suite, partons à la rencontre donc de notre premier grand maître du baiser. Stéphane Bern nous raconte Gustav Klimt.
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il a réalisé le baiser le plus long de l'histoire.
Mmh.
Il a passé des mois entiers enfermé, des années en tête à tête avec sa toile qui deviendra la plus connue, la plus poétique aussi. Stéphane Bern nous raconte le peintre de génie Gustav Klimt.
Nous sommes à Vienne, la capitale de l'Empire austro-hongrois en 1908. Ce matin-là, Gustav Klimt, 46 ans, fait les 100 pas dans son atelier de la rue Josefstedt. Le peintre est aussi anxieux qu'impatient et pour cause, il est sur le point de dévoiler son chef-d'œuvre, une toile étincelante à laquelle il a consacré ses jours et sacrifié ses nuits pendant 3 ans. Celle qui aura bientôt l'honneur de découvrir le fruit de ce travail acharné s'appelle Émilie Flug. C'est la styliste la plus en vogue de la capitale austro-hongroise. Chaque jour, les bourgeoises fortunées se pressent dans l'enseigne qu'elle a fondée pour s'arracher ses créations d'avant-garde. Ce sont des robes longues et amples, aux motifs fleuris ou graphiques, des robes qui libèrent les corps féminins, des corsets trop serrés. Mais cette femme d'affaires redoutable est aussi la muse de Klimt. Voilà près de 20 ans qu'ils se connaissent. Dès le premier regard, le peintre est tombé amoureux fou d'Émilie, de 12 ans sa cadette. Mais les deux âmes sœurs ont en commun cette volonté féroce de bousculer les conventions. Alors, jamais ils ne se marieront. D'abord parce que Émilie est une femme libre qui refuse d'embrasser le destin d'épouse et de mère réservé aux femmes. Ensuite, parce que Gustave, lui, n'a jamais été l'homme d'une seule femme, ni même songé une seule seconde à s'engager. En fait, la gente féminine l'enivre autant qu'elle l'inspire. Chaque semaine, plusieurs femmes pénètrent dans son antre pour s'abandonner dans ses bras. Et juste après leurs ébats, alors qu'elles se reposent lassivement, le peintre s'empare d'un crayon pour croquer leur chair satisfaite. Avec Émilie Fleug, l'alliance est tout autre. C'est un amour spirituel. Émilie est l'ange gardien de Gustave. Mais cette entente tacite n'empêche pas la jeune femme de douter parfois des sentiments du peintre à son égard. Surtout quand elle apprend qu'il a engendré plusieurs enfants, tous nés de mères différentes. Ce jour-là, des pas pressés résonnent dans la petite rue qui mène à l'atelier. Émilie qui arrive enfin. Le peintre recoiffe ses cheveux en bataille et sourit à cette beauté aux yeux verts. 6 ans plus tôt, il a réalisé un portrait d'elle, resté célèbre. Sur la toile, un visage aux joues roses est auréolé d'une chevelure rousse flamboyante. Sa silhouette longiligne est moulée dans une robe aux couleurs vives qui font penser aux plumes d'un paon. Émilie Fleug s'installe au milieu des chats sur le sofa de velours rouge qui fait face au chevalet. Et dans un geste solennel, Gustave Klimt dévoile son œuvre en tirant sur le drap de lin qui la recouvre. L'or du tableau se reflète dans les yeux de la jeune femme. La toile est un carré chatoyant dont les côtés mesurent 1,80 m. Au centre du tableau, un couple est enlacé tendrement. En fait, les deux êtres ne forment plus qu'un. L'homme offre un baiser délicat à son aimée qui lui tend la joue. Elle a les cheveux roux et porte une robe dont les motifs colorés sont inspirés des créations d'Émilie. Ses yeux sont clos, elle est agenouillée sur un parterre de fleurs sauvages et s'abandonne à son homme. Le baiser, c'est le titre que Klimt a choisi de donner à son œuvre. Émilie Fleug est gagnée par l'émotion. Difficile de cacher la petite larme qui coule sur sa joue. Le baiser est une véritable déclaration d'amour. Ces amoureux qui lui font face ne peuvent être qu'une représentation picturale du lien qui l'unit à Gustave. Le tableau est aussi l'aboutissement d'un cycle entamé par Klimt en ce début de siècle, le cycle d'or. Le précieux matériau jaune a inondé peu à peu tous ses tableaux. L'une des toiles les plus célèbres de cette période, c'est le portrait d'Adèle Bloch-Bauer, cette femme aux cheveux noirs de jais qui porte une robe dorée. C'est au cours d'un voyage en Italie que l'idée du cycle d'or a germé dans l'esprit de Klimt. Il s'est émerveillé face à l'or qui abondait dans les basiliques de Venise et les églises de Ravenne. Ce cycle est aussi un hommage à son père disparu qui exerçait la profession d'orfèvre ciseleur. Dans quelques jours, le baiser quittera l'intimité de l'atelier. Klimt la dévoilera à la Kunsthau 1908, une exposition qu'il organise avec l'un de ses complices du mouvement artistique de la sécession viennoise. Quelle sera la réaction de la critique? C'est une question qui tourmente le peintre jour et nuit. En fait, un flot de souvenirs l'assaille continuellement. 20 ans plus tôt, l'empereur François-Joseph Ier en personne lui a remis la croix d'or du mérite artistique. À l'époque, il n'a pas 30 ans et travaille comme peintre décorateur avec son frère Ernst. On s'enthousiasme devant les décorations néoclassiques qu'il réalise sur plusieurs édifices publics de Vienne. Le Burgtheater, par exemple, l'un des plus vieux théâtres d'Europe. Mais lorsque Klimt a décidé de s'affranchir de la peinture académique pour affirmer sa singularité, la critique viennoise ne l'a pas épargné. Bien au contraire. Enlisée dans un conformisme désuet, elle a fustigé son art, le jugeant décadent et même obscène. Le point culminant de cette période est atteint lorsque l'université de Vienne commande à Klimt une série de toiles destinées à orner les voûtes de son entrée. Ces toiles devaient représenter les allégories de la philosophie, la médecine et la jurisprudence. Mais en 1900, quand Klimt avait présenté la philosophie, il avait vu les bourgeois ouvrir des yeux consternés et entendu les officiels s'indigner. Il avait même dû rembourser l'avance qui lui avait été faite. Alors cette fois-ci, face au baiser, que vont-ils dire ?
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Fais-moi un baiser, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Son baiser à lui est une peinture, le peintre autrichien Gustav Klimt a achevé en 1908 son plus célèbre tableau. Mais vous nous disiez Stéphane qu'au moment de dévoiler son œuvre, Klimt craint les réactions de la critique viennoise qui a fustigé son art dans le passé.
Nous sommes au palais de sécession de Vienne, c'est le grand jour. Gustav Klimt va dévoiler le baiser. Il transpire à grosses gouttes en attendant les premières réactions. Mais face à la mine réjouie des premiers spectateurs, Klimt pousse un long soupir de soulagement. Le baiser est exposé au milieu d'une quinzaine d'autres tableaux, mais son effet est totalement hypnotique. Tous les regards sont tournés vers lui. Très vite, il est acheté par l'État autrichien qui met 25 000 couronnes sur la table pour acquérir le tableau du jamais vu. Depuis ce jour, il est exposé au palais du Belvédère de Vienne. Le baiser est aujourd'hui si connu que l'on dit qu'il est en quelque sorte la Joconde de ce musée viennois. Gustav Klimt peut se retirer sereinement dans son atelier. Il s'emploie désormais à réaliser le portrait de femmes fortunées qui lui passent commande. Les années passent, ses excès de consommation féminine ne faiblissent pas. Et alors que la Grande Guerre éclate et fait sombrer l'Empire, le peintre saisit des scènes intimes, toujours plus scandaleuses, dans l'ombre de son studio. En cette matinée d'hiver 1918, les flocons de neige ont couvert d'un épais manteau blanc la ruelle qui mène à l'atelier. Klimt frissonne. Il jette un grand châle en laine sur ses épaules et se met à l'ouvrage. Mais à peine s'est-il emparé d'un pinceau qu'un mal de tête lancinant vient le surprendre. C'est la mort qui cherche à s'inviter chez lui. Avant de s'effondrer, Klimt tente de la défier en se précipitant dans la neige pour crier à l'aide. Le peintre remporte le premier duel. Il reprend conscience, mais dans un lit d'hôpital. Un parfum féminin et rassurant embaume la pièce et lui chatouille les narines. Klimt ouvre l'œil. Il aperçoit cette chevelure rousse qui lui est si familière. Il veut tendre la main pour caresser les boucles d'Émilie, mais il a beau essayer de lever le bras, aucun membre ne répond. Klimt est paralysé. Peut-être aurait-il dû laisser la mort l'emporter. Durant les 3 semaines qui suivent, Émilie Flöge ne quitte pas le chevet de Gustav Klimt. Elle est présente jusqu'à son dernier soupir, précédé d'un murmure. « Fais-moi un baiser. » L'aimer avec un grand A. Celle que Klimt a peinte sur sa toile la plus bouleversante, c'était bien elle.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Gustav Klimt et de son baiser, nous avons le plaisir d'accueillir celui dont l'ouvrage nous a permis de nourrir ce récit, Stéphane, Alain Vircondelet. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour Alain Vircondelet, vous êtes écrivain, biographe connu et reconnu, historien de l'art, et vous venez en effet de publier le passionnant De l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt aux éditions Atelier Henri Dougier consacré au baiser de Klimt. Ce chef-d'œuvre renferme suffisamment de trésors et d'anecdotes pour lui consacrer un livre tout entier.
Ah, c'était la gageure, c'était le défi que je me lançais. Mais il faut croire que oui, puisque j'ai fini par écrire un livre sur le sujet uniquement. Ça m'a beaucoup étonné, amusé quelque part aussi, de pouvoir consacrer un livre à un seul tableau. Et sans parler de la... Il y a eu tellement de biographies sur Klimt, mais curieusement, aucun essai n'avait été écrit sur le baiser. Alors je m'y suis employé et cette lacune a été comblée.
Et vous soulignez, Alain, dans ce livre, que le baiser, c'est le chef-d'œuvre de tous les records. Lesquels ? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns?
Oui, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que l'État autrichien a acheté effectivement d'abord le tableau 25 000 couronnes, comme vient de dire Stéphane Bern, alors que toute commande d'État se faisait à l'époque à hauteur de 5 000 couronnes à peu près. Donc vous voyez déjà, le seuil avait été amplement dépassé. Et puis, c'est devenu le tableau le plus visité au monde. C'est assez extraordinaire. Hein, c'est le tableau que tout le monde va voir à Vienne. On ne peut pas aller à Vienne sans aller voir le baiser. C'est la visite indispensable. C'est un peu la Joconde du Louvre au palais du Belvédère. Et puis surtout, c'est le tableau où il y a peut-être le plus d'or sur une toile. Mais aussi et surtout, c'est la marchandisation. Ce merchandising a fait que le tableau se retrouve sur une quantité absolument innombrable de supports. On le trouve évidemment sur des mugs, sur des tapis de souris, sur des paillassons, sur des têtes de lit, parce que le tableau serait censé inspirer les amants au lit. On le trouve même sur le latex de préservatif, on le trouve sur tous les supports possibles et imaginables, d'autant plus que le tableau est tombé dans le domaine public et alors on peut le trouver sur du papier, des enveloppes, du papier cadeau, enfin de toutes sortes.
En tout cas, merci Alain, vous m'avez donné une bonne idée cadeau pour l'anniversaire de Stéphane avec ses préservatifs de Klimt. Franchement, je pense que c'est une idée,
c'est sérieux.
Ça vous fera plaisir, c'est très bon goût.
Alain Vercondet, vous placez en exergue de votre livre cette phrase de Klimt. Je ne m'intéresse pas à ma propre personne comme objet de représentation, mais aux autres êtres, surtout féminins, et plus encore aux apparitions. Ça pose quand même une question. Que serait Klimt sans les femmes ?
Bon, il serait quand même un immense peintre. Il a prouvé tout au long de sa carrière qu'il pouvait tout peindre. C'était un peintre immense et un décorateur aussi. Donc, il savait aussi peindre des frises, faire des spirales, enfin, faire tout ce travail décoratif qu'on lui connaît. Mais c'est vrai que son inspiration première, c'est l'inspiration féminine. C'est vraiment l'odor di femina, comme on disait à l'époque de la Renaissance. C'est cette odor di femina qui l'a inspiré totalement et toujours. C'était un homme qui aimait énormément les femmes et qui engageait même des femmes faciles, des prostituées aussi, dans son atelier pour se livrer à des exhibitions lascives pendant que lui peignait. Donc il y avait toute cette atmosphère érotique et en même temps, il y avait à côté Émilie Fleuge qui était une muse et comme toutes les muses, elle était pratiquement en quelque sorte intouchable.
Alors on va continuer à parler de nos personnages qui ont fait un baiser et de Gustave Klimt en particulier avec notre invité Alain Vercondet sur Europe 1 tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Fais-moi un baiser, ce n'est pas une pulsion personnelle, c'est le concept de notre émission, le thème de notre émission cet après-midi. On parle de ceux qui ont fait un baiser, on parle de Gustave Klimt, le célèbre peintre, avec notre invité Alain Vercondet. Alors Alain, concernant ce célèbre tableau, vous écrivez dans votre livre « De l'or dans la nuit de Vienne », consacré donc au baiser de Klimt, le baiser le hantait parce qu'il signifiait quelque chose de plus vaste et de plus cosmique même que ce que cet acte avait l'habitude de montrer. C'est quoi la signification de ce baiser pour Klimt, pour celui qui l'a peint ?
C'est-à-dire qu'on peut imaginer, d'ailleurs c'est un contresens. Aujourd'hui, tout le monde pense que le baiser, c'est un tableau à offrir le jour de la Saint-Valentin parce qu'il inspirerait potentiellement les amants, il créerait une pulsion sexuelle ou érotique. Mmh. Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que le tableau de Klimt, c'est d'abord, je pense, une sorte d'élévation spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a dans ce tableau quelque chose qui veut échapper justement à la destruction de l'homme, à la destruction de la chair, justement, ce qui fait qu'il l'a, je dirais presque, ce couple, il l'a coulé dans l'or. Il l'a coulé dans l'or parce qu'on sait que l'or est de tout temps et dans toutes les civilisations un objet absolument éternel et inoxydable et inaltérable. Et donc le baiser devient comme une sorte d'icône sacrée. D'ailleurs, on remarque, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, on dit souvent que ce tableau se trouve sur un tapis de fleurs. En effet, il y a une prairie magnifique avec plein de petites fleurs qui préludent d'ailleurs au tableau que Klimt va faire plus tard, qui sont des tableaux remplis de plantes, de fleurs, d'arbres, etc. Une végétation luxuriante. Mais là, la prairie s'arrête à un moment précis aux chevilles de la femme aimée et il y a comme un vide à côté. C'est comme une falaise avec un énorme vide et qui signale peut-être sur quelle fragilité se trouve ce couple. Et il peut basculer et que seul peut-être le fait de l'avoir coulé dans l'or peut le faire échapper à la chute.
Justement, vous parliez de cet or, de ce jaune or au fond qu'il avait sans doute rapporté d'Italie.
Oui.
C'est l'or, c'est comme un ciel offert à toutes les promesses, dit-il. Donc, ça reprend vraiment la symbolique. Il y a quelque chose de sacré.
Ah oui.
Mais ça a marqué son œuvre ensuite, cet or.
Déjà un peu auparavant, puisqu'il a ce qu'on appelle le cycle de l'or. Et même, il avait été chargé par un industriel belge de décorer son palais. Et donc, il a décoré de façon comme une sorte de chapelle ardente rempli d'or, et il avait mis déjà un couple qui était amoureux, qui ressemble fortement à ce que va devenir le baiser quelques années plus tard. Il s'appelle ce tableau l'accomplissement. Mais vous voyez, le tableau n'a pas été, ne signale pas seulement l'accomplissement, puisqu'il a continué, il a persévéré dans ce projet. Mais c'est vrai que l'or, il l'a ramené de Venise, et là, évidemment, l'or coule de tous les côtés, de toutes les coupoles, Et il a eu cet éblouissement qu'il a voulu rapporter dans l'Empire austro-hongrois, qui, où l'or ne servait que de décoration pour décorer des lambris ou pour décorer des salons. Alors que lui a pris l'or comme un élément sacré, justement, comme on le voit dans toutes les civilisations, aussi bien inca, précolombienne, égyptienne, etc. Donc il a utilisé l'or comme un des moyens, je dirais, de traduire justement la puissance et l'inaltérabilité de son amour pour Émilie Floge. Parce que cette Émilie Floge, elle est quand même très intéressante à étudier. Elle n'est pas seulement la couturière haut de gamme ou la couturière de haute couture qu'elle a été, elle est encore autre chose pour Klimt.
Alain, vous êtes docteur en histoire de l'art. Il y a une question que je me pose toujours. Est-ce qu'un grand peintre sait quand il tient un chef-d'œuvre, son chef-d'œuvre ? Est-ce que là, Klimt, il sentait avec le baiser qu'il avait vraiment son œuvre ultime, je ne sais pas si on peut dire comme ça, parce que Stéphane l'a évoqué, il redoutait l'accueil du tableau.
Oui, il le redoutait parce que justement il avait été très critiqué depuis des années, ne serait-ce que parce qu'il a été le maître de la sécession viennoise et qu'il était l'ami d'artistes qui étaient tout à fait en rupture de banc avec l'esthétique habituelle. Mais pour revenir à la question que vous me posez, je ne sais pas si un artiste, quel qu'il soit, a l'impression de tenir son chef-d'œuvre. Mais quelquefois, je serais tenté de dire oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur le Guernica de Picasso, et Picasso savait qu'il tenait là un sujet absolument extraordinaire. Et je pense qu'avec le tableau du baiser, le fait même qu'il soit revenu à plusieurs reprises sur ce sujet et sur ce thème, et qu'il ait peint d'ailleurs des tableaux qui ressemblent au baiser, à la structure et à la construction même du baiser, ça prouve qu'il avançait à pas réguliers vers quelque chose qui voulait être pour lui l'accomplissement au sens total du terme. Et l'éblouissement total. Et je pense qu'il a atteint ça. Oui,
mais Alain Vercondelet, le baiser n'a pas connu le succès populaire et mondial qu'il tient aujourd'hui immédiatement.
Pas tout à fait, effectivement. C'est un petit peu comme Le Petit Prince, hein, qui au départ n'a pas connu justement cet engouement et le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Eh bien, au départ, quand même, on peut dire des témoignages que l'on a, que le tableau a saisi quand même le public, que le tableau a fasciné par son aspect mystérieux et en même temps par cet or qui en fait était familier aux Viennois. Et, mais très vite quand même il y a eu une répercussion puisque très vite même l'État a acheté quand même le tableau, ce qui montre qu'à l'évidence que malgré le fait qu'il soit le maître de la sécession, quand même que ce tableau pouvait être emblématique de l'Autriche et du temps de cette époque.
Bah écoutez, merci beaucoup Alain Vercondelet. Je rappelle votre livre consacré au baiser de l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt qui vient de paraître aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci d'avoir été avec nous.
Merci surtout à vous, au revoir.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, amis voyeurs, réjouissez-vous, on va se hisser sur la pointe des pieds et regarder par le Judas. Clémentine Portier-Keltenbach arrive pour nous entraîner dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, elle nous présente un fils à maman. Maurice, c'est le fils et la maman, c'est la comédienne Sarah Bernard.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous poussez le bouchon un peu loin avec Maurice, le fils de l'actrice Sarah Bernard.
Là, il faut avoir la référence, hein. Ça nous ramène dans les pubs des années 90.
Oui,
hein.
Oui.
Il a dû en recevoir des bisous de sa maman, hein, entouré d'affection. J'espère que ce fut votre cas, tous les deux aussi, parce que voilà, c'est ce qui fait des hommes bien dans leurs bottes, hein, d'avoir été aimés par
ou
leur maman.
Ou des hommes fragiles, vous savez.
Oui, c'est ça, de fleurs qui manquent d'eau. Bon alors, Maurice, lui, il est né le 29 décembre 1864. Et sa mère était très jeune, elle l'a eu jeune, elle avait 20 ans. Et son père, le prince de Ligne, bien sûr, un prince belge qui ne demandait pas mieux que de le reconnaître d'ailleurs son fils. Mais il avait demandé à Sarah Bernard d'arrêter de faire du théâtre, vous imaginez,
gênant,
comme elle était d'accord. Donc elle a dit c'est non. Donc il est déclaré de père inconnu et il est élevé par sa mère seule. Et bon, ça n'a pas dû être facile tous les jours certainement d'être le fils de la grande Sarah Bernard qui est déjà une vedette. En même temps, il y avait certainement des aspects merveilleux parce qu'il a été élevé dans une vraie ménagerie. Il y avait des chiens, des chats, des perroquets, avait des singes, lionceaux, un guépard, un puma acheté au Jardin des Plantes. Ah bah oui, chez Sarah, il y avait toute une ménagerie. C'est rigolo pour un enfant. Il y avait même un alligator qui s'appelait Ali Gaga et qui a boulotté le chien de Sarah Bernard. Et lui-même ensuite, alors il a été puni, justice immanente.
Il est venu en sac à main.
Oui, là, il est mort d'une indigestion de champagne, Ali Gaga, le pauvre. Voilà. Alors, la ménagerie, c'est pas simplement les animaux. Ça, pour un enfant, c'est plutôt le paradis, mais c'est aussi une ménagerie d'amants, de soupirants, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, d'invités de passage, de livreurs qui apportent des fleurs. Enfin, c'est un peu la fête tout le temps. Il a dû connaître aussi, enfant, sans doute, Maurice, sa mère se couchant dans un cercueil. C'est quand même un peu space de voir ça. Hein. C'est une figure de mère incroyable. Et du coup, Maurice est le type même du fils unique pourri gâté. Sa mère ne lui refuse rien, lui pardonne tout, toujours tout. Hein. Et en même temps, la principale qualité de Maurice, c'est précisément l'amour inconditionnel qu'il porte à sa mère. Il lui voue des sentiments sans partage, il supporte très très mal ses amants de passage. Et alors tous les deux, ils mènent grand train. Il faut imaginer Sarah Bernard qui n'avait pas de compte en banque, elle ne voulait pas placer son argent, c'était complètement contraire.
Il était où son argent alors?
Dans un énorme sac complètement informe et tout mou, elle sortait des liasses de billets de banque. Et quand elle n'avait plus d'argent, eh ben elle partait en tournée. Et c'est comme ça qu'elle est partie.
Aux États-Unis.
Exactement, la première fois. Alors, pour Maurice, sa maman devient bien sûr sa poule aux œufs d'or, parce que lui, c'est un peu oisif, il n'aime rien tant que la course, les jeux, il accumule les dettes, il accumule les maîtresses, elle lui pardonne toujours tout, c'est vraiment sa grande faiblesse. Et en même temps, c'est pas facile, parce qu'en 82, elle tombe follement amoureuse d'un jeune attaché grec, Aristides Damala, elle l'épouse à Londres, hein, et Damala, il n'est pas bien du tout, c'est un drogué, il est dépendant à la morphine, c'est un comédien raté, elle essaie de le faire jouer et ça fonctionne pas naturellement, ils font des scènes de ménage tout le temps. Vous imaginez, c'est quand même pas un environnement familial très très classique, dirons-nous. Alors, il a même envisagé un moment d'estourbir Damala, parce qu'il ne pouvait plus le supporter. Et quand Damala laisse tout tomber à Paris et part chez les Spahis, il s'engage dans l'armée, Maurice sable le champagne avec ses copains et il se jure bien de plus laisser sa mère se faire duper. Alors, le père, pendant ce temps-là, parce que Sarah Bernard devient célèbre, donc le père refait son apparition et très élégamment, moi j'aime bien cette histoire, il propose à son fils, il lui dit, écoutez, je vous reconnais et je vous lègue ma fortune, monsieur. Et Maurice a cette réponse pleine de panache. Depuis ma naissance, ma mère toute seule m'a élevé, souvent à grand-peine et a fait pour moi tous les sacrifices. L'unique façon dont je puisse lui témoigner ma reconnaissance, c'est en restant son fils, à elle seule. Je préfère continuer à m'appeler Bernard. Et il a raconté cette scène assez inénarrable. Il est à la gare avec son papa, le prince de ligne, et au guichet, il y a beaucoup de monde, et son père dit, poussez-vous, laissez-moi passer, je suis le prince de ligne. Tout le monde reste totalement indifférent. Et là, Maurice arrive et dit, je suis le fils de Sarah Bernard. Tout le monde lui cède la place. Et donc Maurice dit à son père, voyez monsieur, le nom de ma mère ouvre toutes les portes. C'est une belle anecdote. Hein. Alors, professionnellement...
Pourquoi il n'a pas fait la queue comme tout le
monde? Parce qu'il était le fils de Sarah Bernard, oui.
Qu'est-ce que vous dites, vous, en entrant au restaurant?
Rien.
Si jamais, par malheur, on ne vous reconnaît pas.
Mais il n'y a rien à dire, c'est prétentieux.
Mais il n'a rien à dire, tout le monde le reconnaît. Venez, monsieur Bern, voilà votre table. La meilleure du restaurant. Oui, jamais, bien sûr. Bon, alors, professionnellement, quand même, Maurice essaie d'écrire quelques pièces. Alors, il écrit Nini l'Assommeur, Le Hennissement, Le Jockey à l'Hôpital.
Bon, je vois... Le Jockey à l'Hôpital, ça va être bon.
Je vois vos têtes que vous n'en avez jamais entendu parler. Et puis surtout, elle fait l'erreur, évidemment, l'erreur par amour de lui confier la direction du théâtre de l'Ambigu. Oui. Voilà. Et alors évidemment, il gère ça n'importe comment. Il se sert dans la caisse pour aller jouer. Bon, donc voilà. Et donc, il précipite le théâtre dans la faillite. Mmh. C'est bien le cas de le dire. L'absus révélateur. En tout cas, à cause de lui, elle sera obligée de vendre ses bijoux, ce qui lui fend le cœur. Elle va juste garder une larme en diamant que lui a offert Victor Hugo. Et tout le reste, elle le vend pour régler les dettes de jeu de son fils qui, immédiatement, vient la taper. C'est vrai qu'il me ruine ce galopin, mais je m'en fous. Voilà.
Vous restez avec nous, Clémentine. Vous savez ce qui arrive maintenant, tout de suite. Vous êtes excitée. C'est ça vous
fête.
A manqué
oh, oui, ça.
C'est votre
je ne sais
à
pas
vous.
Si je veux encore participer à cette supercherie.
Oh, supercherie, c'est comme ça que vous l'appelez. Moi, je l'appelle ça.
Je vais réclamer une augmentation, je crois, parce que là, c'est trop.
À tout de suite pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Le monde, Clémentine, se divise en deux catégories. Ceux qui perdent en gardant la tête haute et ceux qui, ne supportant pas la défaite, s'en prennent à l'autre candidat.
Vous avez triché, cloporte.
Voire carrément à l'arbitre.
Sors de ce corps, Belzébuth.
Essayons pour une fois de donner une autre image aux jeunes qui nous écoutent. Jouons à Burn to be Alive, notre célèbre quiz. Stéphane, première question pour vous. Question historique et géographique à la fois. Vous adorez ça, Dunkerque. C'est magnifique.
Ah oui.
C'est français. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a même eu une journée où la ville de Dunkerque a été espagnole le matin, française le midi et re-espagnole le soir. Vrai ou faux ?
Je crois. J'espère ne pas me tromper, que ce n'est pas Arras. Mais je sais que...
Ça serait fâcheux pour...
Ça serait fâcheux.
Mais... Dans le nord.
Oui, oui. Mais je sais qu'il y a une des villes des Flandres...
Qui aurait été espagnole le matin, oui. Française à midi et re-espagnole
bah
le
oui,
soir.
Vous savez, il suffit que...
Oui, on s'est beaucoup battu, s'est beaucoup battu. Dans cette région-là avec les Espagnols. Ouais.
Dunkerque, on l'appelait alors. Ouais.
Disons vrai.
Vamos à Dunkerque.
Vous avez... perdu.
Ah, j'ai perdu.
Oui, vous avez perdu, mais vous n'étiez pas loin, c'est vraiment dommage,
c'est
Stéphane. On parle bien de Dunkerque. Yeah. Elle a été espagnole le matin, française le midi et anglaise le soir. C'est la bataille des Dunes, 1658. Les Français et les Anglais sont pour une fois unis contre les Espagnols. Mm. Le 25 juin, Dunkerque est d'ailleurs espagnole. À midi, Louis XIV a repris la ville, mais bon, il la donne aux Anglais finalement. En 1662, Louis XIV la rachètera à son cousin Charles II d'Angleterre. Voilà l'histoire de la bataille des Dunes. Alors là, on n'était pas dans l'histoire ?
Si.
Oui. Voilà. Ah, oui. Question numéro 2 pour vous, Clément. Concernant les États-Unis, à travers son histoire, il y a eu plus de 10 capitales différentes pour les États-Unis. Autrement dit, plus de 10 villes américaines ont été un jour capitales des États-Unis. Est-ce vrai ou faux ?
Oui. Stéphane dit oui.
Non, Stéphane tente de vous influencer.
Stéphane dit oui, à l'air
pas
très.
10, je ne sais pas si c'est 10, mais je sais que ça n'a pas toujours été Washington.
Ça a pu être Boston, qui est une des plus vieilles villes des États-Unis.
Et
ça a été Washington. Est-ce que ça a pu être un moment 10 ? Ça me paraît considérable.
C'est beaucoup 10.
10, c'est un gros chiffre.
Un gros chiffre.
C'est plus que 9, mais c'est moins que 11. Mais
je vais répondre non. 10 me paraît beaucoup, écoutez, je... Oui.
Non. Vous avez gagné.
Bonne réponse, Clémentine. Bravo. Il y en a eu 9. Baltimore.
Bah voilà, bien sûr, c'est bien ce que j'avais en tête.
Baltimore, Lancaster, York, Princeton, Annapolis.
Princeton.
Trenton, New York. Philadelphie.
Trenton, je vois même pas où c'est.
Et Washington DC. Ouais. Moi non plus, pour tout vous dire. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Attention, il va falloir vous reprendre. J'ai souvent dans ce quiz brocardé certains ecclésiastiques, mais là, au contraire, j'aimerais saluer la mémoire d'Innocent II. Ce pape trouvait que l'arbalète était immorale, tellement elle déséquilibrait le combat. L'arme permettait en effet d'abattre des chevaliers à très longue distance sans leur laisser la moindre chance au combat. Du coup, il l'a interdit. Vrai ou faux ?
C'est une belle idée, ça, de considérer que tuer son ennemi à distance est une certaine lâcheté.
En même temps, ils avaient des gardes suisses et ils ne sont pas privés de tirer sur...
Peut-être pas les gardes suisses à l'époque d'Innocent II.
Et peut-être pas Innocent II. Hein. Enfin, je vous pose la question.
Oui, en plus, il s'appelait Innocent.
Oui.
Si ça se trouve, ça va être le contraire. Ça a été un des papes les plus cruels de toute l'histoire du Vatican.
De toute l'histoire de la papauté.
Peut-être que c'est même lui qui tirait à l'arbalète.
Oui.
C'était un sale type. Ah non, je plaisante.
J'aime bien quand on parle de pape, tout à coup Stéphane nuance ses propos. Alors, quelle est votre réponse, Stéphane ? D'après vous, c'est vrai ou c'est faux ? C'est Innocent II qui a interdit l'arbalète.
Allez, je dis oui, ça doit être bien, oui.
Vous avez gagné !
On a eu chaud. Oui, c'est une bonne réponse, Stéphane. L'arbalète a été frappée d'anathème en 1139 par le deuxième concile du Latran, Innocent II, menaçant les arbalétriers d'excommunication. L'interdiction est peu respectée, il faut le dire. Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste ont développé des unités particulièrement bien équipées et entraînées.
Question... Richard Cœur de Lion est mort d'un trait d'arbalète,
bien sûr,
me semble-t-il.
Comme quoi, il ne fallait pas jouer à l'arbalète.
Voilà, question... Il est mort par là où il avait péché.
Oui, exactement.
Question avec numéro Philippe 4. Clémentine, c'est pour vous. Vous pouvez l'emporter sur cette question, vous en avez conscience.
Oui, je me concentre.
Vous connaissez forcément la Maison Blanche. Maxime Le Forestier connaissait la Maison Bleue. Mais en Corée du Sud, la résidence des présidents est surnommée la Maison Jaune. Elle a été conçue en 1912. Vrai ou faux ? C'est une maison jaune construite en Corée. Je sais pas, j'essaie de vous aider.
La Maison Bleue, je suis allée la voir, hein, comme tous les Français à Washington. Et c'est même.
À Washington, je crois, la Maison Bleue, elle est à Washington.
À San Francisco. À San Francisco. Et c'est même la communauté française qui a financé la peinture, parce qu'elle n'était pas dans le vrai bleu qu'on s'attend à trouver.
Ce n'est pas la réponse que j'attends.
Alors, la Maison Jaune, bien sûr, oui, il y a une belle chanson, la Maison Jaune, oui, bien sûr. Alors pourquoi en jaune? Parce que c'est pas tellement une couleur. Ça devrait être rouge, la maison rouge. Non, c'est pas le rouge plutôt dans le. Mmh. C'est une maison jaune.
Écoutez la chanson.
Oh bah oui.
C'est une maison jaune. Peut-être que. Non, je ne sais pas. Je ne veux pas vous encourager dans un sens ou dans l'autre.
Non, je dis non. Elle
vous
devrait être rouge, cette maison.
Vous avez.
Vous avez gagné, Clémentine.
Bravo.
Une belle victoire dans ce quiz. Et j'ai essayé pourtant de vous guider vers la mauvaise réponse. C'est faux. Effectivement, c'est la Maison Bleue aussi. Elle est à Séoul.
Ah oui.
Depuis 1948, date de l'indépendance de la République de Corée, Yoon Po-soon, le président en 1960, la surnomme ainsi. On l'appelle très exactement Chewang Wadae, ce qui signifie « maison au toit de tuiles bleues ». J'aime la précision. Voilà, c'est important de le signaler.
Vous le saviez, Stéphane?
Non.
C'était la maison.
Non, moi, je ne sais rien.
mais parfois, vous avez de la chance. En tout cas, c'est une belle victoire. Oh,
merci beaucoup. Hein, ça faisait longtemps que je m'étais fait. Je n'avais pas gagné.
Je m'étais fait avoir,
j'allais dire.
Effectivement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Quand Stéphane avait débarqué lundi en conférence de rédaction en me disant
oh, fais-moi un baiser.
J'ai d'abord cru qu'il était bourré. Après tout, on était lundi. Dieu seul savait à quoi il avait encore occupé son dimanche. Avec qui? Et puis, j'ai compris qu'il me proposait une thématique d'émission.
Mais oui, Mathieu, plus de peur que de mal. Donc, aujourd'hui, on réunit trois pros du baiser. Après Gustav Klimt, je vous raconte le destin du célèbre photographe du baiser de l'Hôtel de Ville, Robert Doisneau, qui est dans toutes les mémoires, évidemment, un peu plus que votre personnage du jour, Mathieu.
Oui, Stéphane, à part vous, rares sont ceux qui se souviennent de Tarkan, méga star turc des années 90. On tentera de répondre à la question.
On ne sait toujours pas comment il est mort.
Non, qu'est-il devenu? Car Stéphane, info Europe 1, Tarkan n'est pas mort.
Sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures pour tonifier vos neurones sans négliger pour autant vos zygomatiques. 2 heures, 3 personnages, un point commun, Mathieu.
Oui, aujourd'hui, alors qu'on célèbre la journée mondiale du baiser, on oublie un peu les gestes barrières. Vous savez, Stéphane a le bras long, un bras qui va jusqu'à l'Elysée. Donc, on vous fait une dérogation et on s'embrasse comme du bon pain. On se fait des...
Zoubizoubizou.
C'est en tout cas la spécialité de nos 3 personnages du jour, Stéphane.
Après Gustav Klimt et son fameux baiser, je vous raconte l'histoire d'un photographe qui lui aussi est passé à la postérité avec un baiser. Celui d'Hôtel de Ville, c'est Robert Doisneau. Enfin, Mathieu, vous évoquerez un amateur de bisous plus contemporain.
Contemporain, mais un peu disparu lui aussi. À croire qu'Erdogan n'aime pas trop les bisous, je partirai à la recherche de Tarkan. Qui, contrairement à ce que vous avancez, Stéphane, avec un sourire en coin, n'est pas mort. Il est juste loin des sunlights du showbiz, ce qui, je vous l'explique tout le temps, ne signifie pas que la vie s'arrête totalement. Avec nous également pour cette deuxième heure, celui qui m'a permis de réaliser à quel point vous étiez un grand acteur, Stéphane. Je ne vous ai pas vu dans Meurtre en Lorraine, mais dans Ce que raconte Castello est épatant, quoi qu'il raconte, vous êtes génial. On y croirait presque.
La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu visiter une usine de fabrication d'Econom.
Non.
Vous apportez ici une chute de métal sortie d'une machine.
Ah non.
Mais un Oscar pour Stéphane Bern. David Castello-Lopez est avec nous.
Il nous raconte les origines du rouge à lèvres.
Oui, depuis quand on se peinture la gueule comme ça?
Enfin, nous, on ne le fait pas.
Voilà, mais
trop peu, sauf dans des soirées très particulières que nous n'évoquons pas ici. Olivier Pouls est avec nous aussi, mon cher Stéphane.
Pour une recette chère à Henri IV qui a popularisé ce plat le dimanche.
Mais pas à vous, Stéphane, puisqu'on sait que vous ne mangez pas vos poules.
Non, mais je veux bien manger celle des autres.
Une petite poule au pot tout à l'heure. Hein.
C'est facile à faire, j'imagine.
Pas très compliqué. Ouais. Il faut un peu de temps. Ouais. C'est de la cuisine qui prend du temps.
Le mot de la fin, les amis, reviendra évidemment à Stéphane Bern. Chaque jour, l'histoire d'une expression, Stéphane, aujourd'hui.
Puisqu'on parle de baiser aujourd'hui, je vous parlerai du French kiss. Ah. Ça vient des États-Unis, mais... Vous savez, il y a une histoire derrière, et pas uniquement une histoire de langue.
Hâte d'entendre tout ça à la fin de cette émission, mais tout de suite, chargez la pellicule, direction l'Hôtel de Ville. Stéphane Mann nous raconte notre deuxième artiste, auteur d'un baiser célèbre et d'un seul, Robert Doisneau.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il a immortalisé un couple devant l'hôtel de ville.
Édouard Philippe et Anne Hidalgo, n'est-ce pas ?
Non, Stéphane, attention quand même, ce que vous dévoilez, je parle d'un vrai couple, surtout d'un vrai baiser. Celui que Robert Doisneau a photographié, c'est son étonnante histoire que vous nous racontez maintenant.
Nous sommes en 1950 dans le Paris d'après-guerre. 6 ans après la fin de l'occupation, la vie reprend son cours. Ce jour-là, à quelques pas de l'hôtel de ville, un jeune couple s'embrasse avec fougue. Le jeune homme a des airs d'Yves Montand. Et il y a quelque chose d'Édith Piaf dans le profil de sa compagne. Les amoureux sont pris dans un tourbillon de passants, mais leur baiser semble figé, presque hors du temps. Cette scène romantique a été immortalisée dans un cliché en noir et blanc que vous avez forcément déjà vu. Je parle bien sûr du baiser de l'hôtel de ville, l'une des photographies les plus célèbres du XXe siècle. Derrière l'objectif, ce jour-là, on retrouve Robert Doisneau, un photographe de 38 ans qui connaît Paris comme sa poche. Pour lui, les rues de la ville sont un studio à ciel ouvert. Voilà 20 ans qu'il les sillonne armé de son Rolleiflex pour en saisir l'âme. Personne n'échappe à son œil vif qui capture les instants de vie des artisans, des bistrots, des gamins des rues ou des saltimbanques. Né dans une famille de la banlieue sud de Paris, Robert Doisneau a réalisé ses premières photos à l'âge de 17 ans. À l'époque, il empruntait en douce l'appareil de son demi-frère. 3 ans plus tard, et quelques sous en poche, il achetait son propre appareil. Ce fameux Rolleiflex qui vaut de l'or à ses yeux. Depuis, il a pris de l'âge et des milliers de clichés. Le marché aux puces de Saint-Ouen, les ouvriers de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, les soldats allemands dans la capitale occupée, les Parisiens dans leur cité libérée, et même les coulisses des défilés de mode et des mariages nobles. Doisneau publie maintenant ses reportages photos dans les magazines à grand tirage comme Point de vue, Regard ou Vogue. Ses photographies du baiser, il les réalise dans le cadre d'une série commandée par le magazine américain Life. On lui demande de saisir l'amour à Paris au printemps. Un thème un peu cliché, certes, mais cette commande est une aubaine pour le photographe. Quand il vend ses photos à des journaux commercialisés outre-Atlantique, il empoche 3 à 4 fois plus d'argent qu'ici. Alors, au travail. Pour réaliser ses photos, Robert Doisneau doit engager plusieurs comédiens. Il a beau avoir l'œil, il lui sera difficile de capturer les tourtereaux complices à la volée. Et oui, le mythe s'effondre, je sais. Les amoureux iconiques qui échangent un baiser devant l'hôtel de ville sont en fait étudiants en théâtre au cours Simon. Doisneau les a recrutés quelques heures plus tôt pour les besoins de sa série. Mais si le cliché n'est pas spontané, l'amour que se portent les deux sujets de la photo est bel et bien réel. Ah. À 20 ans, Françoise Bornet et Jacques Carteau forment un couple à la ville. Ce jour-là, après la séance, il salue chaleureusement le photographe qui promet de leur envoyer un tirage de la photo en guise de remerciement. Quelques semaines plus tard, la photo paraît dans Life au milieu d'une dizaine de clichés capturant les amours parisiennes. En légende du reportage, on peut lire « À Paris, les jeunes amoureux s'embrassent où ça leur plaît et personne n'a l'air de s'en étonner ». Les lecteurs américains sont conquis et le font savoir en envoyant plusieurs centaines de lettres à la rédaction du magazine, si bien que le journal français, ce soir, republie ce reportage qui ravit les Américains. Mais après cette publication, le baiser de l'hôtel de ville tombe dans les oubliettes de l'histoire pendant plus de 30 ans. Pendant ce temps-là, Robert Doisneau confirme son statut de photographe humaniste, reçoit plusieurs prix récompensant son travail, expose à New York, Chicago, Paris ou Lyon, et traverse le globe pour effectuer des reportages aux États-Unis, au Canada ou en Union soviétique. Et voilà qu'au beau milieu des années 80, les éditions du Désastre ont l'idée de publier sous forme de poster la photo oubliée de Robert Doisneau. Le succès est immédiat. Les amoureux de l'hôtel de ville se vendent clandestinement dans les couloirs du métro parisien, s'affichent dans une publicité pour une compagnie aérienne, ornent des puzzles, des...
Puzzle. Il y a deux écoles, pas, il y a clairement deux écoles. Moi, on peut dire des puzzles. Et moi, je vous respecterai toujours, Stéphane.
Bref, la photo fait le tour du monde tant elle symbolise la liberté, la jeunesse et la ville de l'amour. Mais depuis que le monde a découvert le baiser de l'hôtel de ville, la boîte aux lettres de Robert Doisneau ne désemplit pas. Voilà qu'un matin, alors qu'il lit tranquillement son courrier devant un café fumant, Doisneau trouve une lettre au contenu inattendu. Une femme lui écrit noir sur blanc qu'elle se reconnaît sur le cliché. Cette jolie jeune fille qui reçoit un baiser, c'est elle, il n'y a pas de doute. Tout coïncide, les cheveux, la tenue, la silhouette, le garçon aussi. Sauf que Doisneau a engagé des comédiens pour réaliser ce cliché qui n'est qu'une mise en scène. Alors, soit cette dame affabule, pour on ne sait quelle raison, soit elle ressent la nostalgie d'une époque et se berce de douces illusions. Doineau jette la missive et l'oublie aussitôt. Mais cette lettre n'est que la première d'une longue série. Pas moins de 15 couples se manifestent en affirmant qu'ils se reconnaissent sur la photo. L'histoire va très loin puisqu'en 1992, les époux Lavergne décident de recourir à la loi, vraisemblablement persuadés qu'ils ont été photographiés à leur insu. Ils intentent un procès au vieux photographe et lui réclament 500 000 francs pour violation de la vie privée. La même année, Françoise Bornet vient ajouter son grain de sel. Puisqu'elle apparaît sur la photographie et que son image orne désormais toutes les chambres d'ados de France et de Navarre, elle réclame sa part du gâteau, c'est-à-dire une partie des droits de reproduction du cliché. Un an après ces fâcheux démêlés judiciaires, la mort vient cuire Robert Doineau à l'âge de 81 ans. Mais si le photographe humaniste disparaît, son plus célèbre cliché, lui, n'a pas fini de faire parler. En avril 2005, Françoise Bornet met en vente la photographie originale du baiser de l'Hôtel de Ville, celle-là même que Doineau lui avait envoyée en 1950 pour la remercier d'avoir joué le jeu. Prix de mise en vente, 10 000 euros. Prix d'achat, après des enchères enflammées, 184 960 euros. L'heureux propriétaire est un mystérieux collectionneur suisse. Jamais une photo de photographe humaniste ne s'était vendue si cher. Preuve que 70 ans après avoir été capturé sur la terrasse d'un café, le baiser de l'Hôtel de Ville continue de faire rêver.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Robert Doineau et de son fameux baiser de l'Hôtel de Ville, nous sommes avec sa petite fille Clémentine Déroudil. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Clémentine Déroudil. On parle avec vous dans un instant de ce baiser de l'Hôtel de Ville.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos personnages qui ont fait un baiser continue cet après-midi. On parle du photographe Robert Doineau avec notre invité Stéphane Clémentine Déroudil.
Oui, avec Clémentine Déroudil, en plus d'être la petite fille de Robert Doineau, vous lui avez consacré un documentaire en 2016, Robert Doineau, le révolté du merveilleux. Vous avez été aussi commissaire de l'exposition Doineau et la musique à la Philharmonie de Paris, dont le catalogue de l'exposition a d'ailleurs été publié chez Flammarion. Chacun a son histoire avec ce baiser. On l'a tous croisé quelque part. Quelle est la vôtre en tant que petite fille du maître? Vous l'avez trop vu ce baiser ou il continue de vous toucher vous-même?
Bon, on n'a jamais trop vu les photos de Robert Doineau. Non, moi j'ai une relation très particulière parce que cette photo, c'est le basculement aussi dans la très grande notoriété. Donc pour moi, j'étais au début de l'adolescence quand mon grand-père devenait une personnalité et c'était quelque chose... d'absolument incroyable pour toute la famille. Donc voilà, c'était très très joyeux.
Ce qui est fou, Clémentine, c'est de constater l'écart entre ce qu'il est devenu, ce baiser, le symbole de Paris, de l'amour, de sa fugacité, avec cette étreinte qu'on pensait saisie sur le vif, et ce qu'il était au départ, hein, comme l'a raconté Stéphane, une commande d'un photographe avec des comédiens. Ça casse un peu le mythe ou pas, finalement?
Bah, pas du tout, parce qu'on ne se demande pas si les natures mortes de Cézanne ont choisi d'être posées ou pas. Ou... pour moi, c'est vraiment un faux débat, absolument. Et puis, ouais. Je veux dire, mon grand-père a passé sa vie, quand on regarde ses images et son travail, à capter la joie, le bonheur, l'amour, essayer de rendre la vie plus supportable qu'elle n'est. Donc, le baiser rentre totalement dans cette thématique-là. Après, pourquoi est-ce qu'une photo est choisie à un moment et devient un espèce de succès planétaire? Parce que vous l'avez bien dit, c'est vraiment un succès planétaire que ce baiser.
Et est-ce que lui-même avait conscience de ça? Est-ce que c'était une photo parmi d'autres comme cela?
Oui, c'est dit tout de suite.
Ou tout de suite, il s'est dit, cette photo va faire parler.
Non, c'était une photo vraiment parmi d'autres. Moi, je me souviens quand elle est devenue le poster, donc quand les éditions du Désastre l'ont choisie, mon grand-père ne portait pas plus d'attention à cette photo. Et puis tout d'un coup, ça a été choisi parce que ces gens avaient l'instinct de se dire que celle-là, ça allait marcher. Enfin, il y en avait plein d'autres qui étaient en poster, en carte postale. Et puis ça a été lié aussi à un moment où il y a eu tout un ensemble de choses aussi, la photographie qui prenait un autre statut aussi en France, oui, qui a fait que tout d'un coup, voilà, c'est devenu cette espèce d'image iconique. Et puis c'est quand même une image merveilleuse. Enfin, non, mais après, ce qui est très drôle entre ce qui était mon grand-père et ce que la photographie est devenue, c'est-à-dire que nous, on passait pas du tout notre journée à s'embrasser dans la famille. On est une famille très pudique. Mon grand-père a plutôt une éducation protestante. Enfin, je veux dire, on n'était pas du tout dans une effusion de baisers. Et donc, je trouve ça assez drôle, moi, par rapport à notre famille, de voir...
Oui, que Robert Doisneau soit connu pour un baiser, oui, c'est, alors c'est qu'il en distribuait peu.
Le baiser de l'hôtel de ville et ses clichés ont maintenant une valeur incroyable. Vous rappelez, justement, qu'à l'époque, bah, le marché de la photo, il n'existe pas. C'était même presque incongru de penser qu'on allait vendre ces clichés.
Exactement. Il faut vraiment se rappeler que le marché de la photographie est un marché très jeune, très nouveau. D'ailleurs, mon grand-père ne fait pas partie du marché de la photographie. Il n'y a pas de vente de tirages. L'atelier Doisneau refuse de vendre les tirages. Mon grand-père a passé sa vie à travailler en reportage. Ce n'est pas que ça lui plaisait, c'est qu'il avait besoin de gagner sa vie. Il était très heureux de rencontrer des personnalités, etc. Mais c'était aussi pour pouvoir payer son loyer, pour gagner sa vie. Et ça aussi, quand on devient célèbre, on a la sensation qu'on est milliardaire. Pas du tout, surtout la photographie. Je ne sais pas, la peinture, ce n'est pas du tout l'histoire de Picasso, pas du tout Doisneau. Donc ça aussi, c'est des choses à remettre dans le contexte historique, et que l'histoire du procès, ça a été une blessure immense, mais immense, dans la vie de mon grand-père. Il n'est pas du tout mort de ça, il était malade, mais ça a été quelque chose de terrible, parce que ça voulait aussi dire quelque chose sur l'idée de la photographie, et puis sur la manière dont il avait travaillé, comme vous le disiez si justement. Il envoyait, à chaque fois qu'il prenait quelqu'un en photo, il envoyait un tirage. Rencontrer un photographe qui continue à faire ça aujourd'hui,
ah non, c'est... Il faut supplier pour avoir un tirage. Non, il y a une chose qui est très touchante quand on raconte l'histoire, c'est qu'à partir du moment où la photo a fait le tour du monde, il a reçu plein de lettres. Comment il réagissait? Est-ce qu'il répondait il vous a lu certaines de ces lettres? Comment ça se passait?
Alors, le travail, même si c'était tout ensemble, etc., on habitait juste à côté, mais il ne nous lisait pas les lettres, mais il nous racontait ses histoires. Il répondait à chacune de ses lettres aussi. Et il passait le dimanche matin, le dimanche toute la journée, après, parce que ça prenait de plus en plus de temps, mais il répondait à chaque fois. Et lui, il avait cette espèce de philosophie qui lui a joué un mauvais tour, mais de il se disait que les gens étaient tellement heureux de se reconnaître dans ces photos, sachant pertinemment que ce n'étaient pas les bons, mais ils ne voulaient pas casser leurs rêves. Donc en fait, ils ne répondaient pas en disant « ce n'est pas vous », ils les laissaient rêver autour de cette photo. Et c'est, il y a eu des histoires merveilleuses. Après, la plus belle histoire, c'est le monsieur Auberet, vous savez, qui est derrière, et lui qui habite au Canada, qui a été merveilleux, qui a écrit plusieurs fois à mon grand-père en leur envoyant des photos de toute la famille où il pose encore avec le béret et tout. C'est très, très, très joli, quoi.
L'histoire a fait de Doisneau un des pères de la photographie humaniste. Humaniste, mais d'abord humain. C'est le grand-père que vous avez connu. Vous pouvez nous raconter ça? On ne sait pas grand-chose de Doisneau, de comment il était dans la vie.
Bah, il était... c'était un être merveilleux. Non, mais j'ai eu la chance... moi, je l'ai vu tous les jours de ma vie jusqu'à sa mort. J'avais 20 ans et c'était un l'être le plus merveilleux que j'ai rencontré. C'était quelqu'un, un vrai humaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait à l'humain avant de penser à autre chose, alors que la vie ne l'a vraiment pas épargné, quelqu'un qui nous faisait toujours rire, ce qui n'empêchait pas que c'était quelqu'un de sombre, d'ailleurs on le voit dans ces images, enfin de très lucide, et c'est pour ça qu'il y a une compréhension, je trouve, assez fausse de ces images ensuite, de côté un peu naïf, c'était le contraire d'un doux naïf, absolument le contraire. Simplement, il avait été partisan de faire ressortir les belles choses chez les autres, il adorait l'humain, et il était exactement comme ses photographies, quoi. Et on était une tribu, je dirais, on était tous autour de lui, et tout ça était très, 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 très joyeux, ouais. La famille, les cousins, les amis, enfin, on était une grande bande.
Une tribu.
Une tribu, ouais.
Mais merci beaucoup, Clémentine Héroudie, d'avoir ressuscité l'œil génial de Doisneau et son fameux baiser. Pour découvrir une facette moins connue du photographe, je rappelle votre livre « Doisneau et la musique » qui est paru chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre est donc consacré à ces personnages de l'histoire qui ont fait un baiser. Après Klimt et Robert Doisneau, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un artiste bécoteur plus récent.
Oui, Stéphane, vous savez que, comme disait Gainsbourg, il y a art mineur et art majeur. Après s'être mis en bouche avec de petits artistes finalement assez secondaires comme Klimt et Doisneau, je vous propose de vous confronter un artiste avec un grand A, dont le nom brillera au firmament de la musique pendant probablement des siècles. À moins qu'on l'ait déjà oublié aujourd'hui, c'est une éventualité, vu que ma chronique ressemblera plus à un avis de recherche qu'un portrait. Je vous raconte l'histoire du Mozart du Bosphore.
Vous y allez.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont fait parler d'eux grâce à un baiser. Après Gustave Klimt et Robert Doisneau, vous nous brossez, Mathieu, maintenant le portrait à 99% vrai d'un artiste qui lui aussi s'est rendu célèbre par un baiser, mais qui a hélas un peu disparu des écrans radars. La star de la pop turque, Tarkan.
Oui Stéphanie, il est clair que lorsque tu démarres ton enquête sur une personnalité et qu'en tapant son nom dans Google, la première occurrence que le moteur de recherche te propose est « qu'est-il devenu ?», ça sent pas très bon. Pourtant, nous sommes nombreux à avoir une dette envers Tarkan, car avec son tube Smarik alias Kiss Kiss, il a permis à toute une génération de puceaux d'enfin oser passer à l'action. Grâce au moment clé de cette chanson où soudain la musique s'arrête net et que Tarkan dit « offrant même aux plus timides l'opportunité de pécho.
C'est cool ?
Oui, c'était très cool. C'était l'été 98, on venait de gagner la Coupe du Monde et on dansait donc toute la nuit au son de... Sur Europe1.fr, vous pouvez voir Stéphane esquisser un chaloupement oriental qui, combiné à son arthrite, donne un drôle de résultat. Mais visiblement, c'est une musique qui lui rappelle de bons souvenirs pour Stéphane et tous les gens qui ont été jeunes en 1998. Quand on entend cette musique...
Les tétons ont tendance à pointer.
Oui.
Et même la bite.
Oui, bref, c'est effectivement un appel à la sensualité, c'est très clair. C'est très clair. On comprend qu'à un moment, il est question de s'embrasser, mais que nous dit vraiment le poète ? Eh bien, j'ai posé la question à Google Translate. Alors, mes parents, je vous dis ça aujourd'hui, étaient traducteurs à l'ONU. Ils me disaient toujours... Tu sais, Matounet, aucun traducteur automatique, aucune intelligence artificielle ne pourra remplacer un vrai traducteur professionnel. Ce à quoi je répondais, j'étais ado, « Ouais, vous êtes trop des vieux ploucs, dans 10 ans, votre taf, il n'existe plus. » Je présente aujourd'hui mes excuses officielles à mes parents, car quand vous tapez donc, les paroles de cette chanson, « Takmis koluna elina damimi, beni orta yeridem katlior, axinda zagigi zirizip dirizip, arziz arziz patlior, pardon pour l'accent », Google Translate vous donne ceci. « L'homme de la main avec son bras, ça me tue au milieu. » Avec la gencive enflée et enflée dans la bouche, explosion sans vergogne. La suite est encore plus gratinée, je ne sais pas d'où ça sort. Regardez la vieille crique avec de nouvelles menstruations. Les amis sont ruinés, mon destin est trouble. Si je t'attrape, bisous, bisous. Là, c'est la seule partie de la chanson qu'on comprend. Si je t'attrape, bisous, bisous, c'est plus du Tarkan, c'est du Strauss-Kahn. On était, il faut le dire, des lustres avant MeToo.
Ah oui, c'était le bon temps.
Un commentaire qui n'engage que vous, Stéphane. Alors, aujourd'hui, on écoute Tarkan une fois par an, max, hein, à Noël, lorsque, avachi sur le canapé de mamie, on mâchouille des Pyrénéens en regardant sur la TNT des programmes baptisés 50 ans de tube ou années 90, une décennie de hits pour faire la fête. Mais Tarkan, en Turquie, ce fut longtemps une énorme star, oui. Une vedette comparable à Johnny chez nous. Tout démarre en 72 en Allemagne. L'Allemagne, l'autre patrie du disco, on l'oublie trop souvent. Le petit Tarkan Tevetoglu est le fils de travailleurs immigrés turcs venus après la Seconde Guerre mondiale. Il grandit donc en Allemagne jusqu'à l'âge de 14 ans, où son père décide qu'il est temps pour la famille de regagner la mère patrie. Pour Tarkan, qui a déjà de la musique plein la tête, le choc culturel est rude.
Cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire.
Vous avez fait taire le muezzin ?
Le ?
Muezzin, le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin.
C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. On m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion.
Je me sentais perdu, explique Tarkan. Passer des environs de Francfort à un endroit comme Iznik, ce n'était pas facile. Iznik est en plus un fief islamiste où Tarkan souffrira de la rudesse masculine, mais en même temps, il y découvre la musique du terroir. En 90, il s'inscrit à l'Üsküdar Music Society d'Istanbul. La ville est alors en pleine effervescence musicale. Les producteurs enregistrent à tour de bras, poussant la nouvelle vague à s'inspirer des traditions locales. Face à la montée islamiste, on favorise justement l'originalité et l'insolence. Ça sera la chance de Tarkan, dont le petit accent germanique et le vibrato à la Elvis Presley, Dixit Tarkan lui-même, hein, lui permettent de se faire repérer par un certain Mehmet Soğutoğlu que je me plais à imaginer comme une sorte de Jean-Claude Camus stambouliote. Mehmet dirige un label et permet à Tarkan de signer son premier album, Encore sans toi, qui s'écoule à 700 000 exemplaires déjà. Une belle performance. Il faut dire que Tarkan n'a pas pour lui que son vibrato, il a aussi un physique. Beau brun aux yeux verts, c'est un Turc, comment dire Stéphane ?
Beaucoup moins poilu.
Oui, beaucoup moins poilu que l'idée que vous faites des Turcs. En tout cas, globalement, c'est un authentique BG, le genre de mecs qui ont été honteusement gâtés par Dame Nature et qui chaque matin devant leur miroir peuvent se dire comme Stéphane.
Quelle beauté, je me sens bien.
Tarkan est beau, sa musique plaît. Là où ça coince encore, c'est les paroles. Hein. C'est pas du Léo Ferré, faut encore bosser. Heureusement, en 94, en studio, il croise Sezen Aksu, vous connaissez évidemment Sezen Aksu, Stéphane ?
Absolument pas.
Moi non plus, mais il semblerait que ça soit une star en Turquie. Le magazine Rock'n'Folk avance même qu'elle a, je cite, renouvelé la pop turque en la débarrassant du mimétisme européen. Bref, la dame prend en main les textes de Tarkan et bingo, le deuxième album se vend à 3 millions d'exemplaires. Un travail sur les textes qui doit être sensible en turc, vu qu'en français, le titre de l'album donne « Oh, tu es incroyable !» Ce qui n'est pas un mauvais titre, mais qui n'est pas ouf non plus. Succès phénoménal, mais encore turco-turc jusqu'en 97 et le coup de génie, le coup du bisou. Succès mondial cette fois. Il faut dire que depuis le succès de son deuxième album, Tarkan vit désormais à New York où il s'est réfugié pour échapper à ces hordes de fans turcs qui veulent son corps. Smarik alias Kiss Kiss est donc son tube, son Born to be Alive à lui. Extrait d'un nouvel album où l'on perçoit encore très clairement la plume alerte de cette fameuse Sezen Aksu puisqu'il s'intitule « Je mourrai pour toi », ce qui est à nouveau assez bien trouvé. Nous sommes en 99, il y a Madonna, le pape et Tarkan. Les Turcs le surnomment « Megastar », nous « Le prince du Bosphore ». Tournée mondiale, jet privé, soutien-gorge arraché, sniffage de farine euphorisante sur les fesses de mannequins moldaves plus ou moins majeurs. Vous connaissez, Stéphane, les enchaînements classiques d'une carrière dans le showbiz, dont le Graal constitue en 1999, on l'a oublié, un passage dans le Hit Machine.
Je m'appelle encore Charlie, et je m'appelle toujours Lele. On est sur le disque pour faire la musique.
Oui, comme dirait David.
C'est cruel aujourd'hui, mais c'était tout à fait normal à l'époque.
Oui, fort de ce succès, Tarkan réfléchit. Pas con, il s'est dit, si les gens ont aimé, c'est qu'ils aiment les onomatopées. Alors il enchaîne logiquement avec... Chikidim, chikidim, le bruit produit par le claquement des doigts. Mais autant tout le monde sait faire un bisou, autant tout le monde ne sait pas claquer des doigts. Stéphane, démonstration. Ah non, vous savez, je pensais que vous avez...
Main gauche.
Non, ça c'est Pouls qui fait. Vous savez pas faire la main gauche.
Moi je sais pas faire la main gauche.
C'est dire la main gauche. Moi j'y arrive pas non plus. Le succès est moindre que. Mais pas négligeable quand même. Visiblement Stéphane veut relancer ce deuxième tube moins connu d'Arkan, pourquoi pas.
C'est que dim.
Mais vous connaissez tout Arkan, ah, vous êtes complètement fan. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Tarkan n'échappera pas évidemment à quelques bad buzz, notamment une polémique autour de son service militaire qu'il a un peu zappé. Une sardou, comme on dit dans le petit milieu des chanteurs pacifistes outrouillards. Ses détracteurs le surnomment le déserteur, mais alléluia, en 99, il y a le tremblement de terre d'Izmit.
Youpi!
Oui, pourquoi youpi? Parce qu'à cette occasion, une loi sur le service militaire est votée et elle autorise ceux qui s'acquitteraient de la modeste somme de 16 000 dollars à faire un service de seulement 28 jours, ce qui arrange les affaires de notre Tarkan qui, après 29 millions d'albums vendus, n'aurait pas eu trop de mal à se procurer les 16 000 dollars. Son succès musical continue en Turquie. À l'étranger, il se distingue plutôt par ses prestations de mannequin pour Pepsi.
D'ailleurs, au passage, est-ce que vous savez pourquoi le Pepsi s'appelle
non.
le Pepsi?
Oui, non, on s'en fout, on n'a pas le temps. Tarkan se diversifie. Il compose et interprète l'hymne de l'équipe de football turque pour la Coupe du Monde 2002. Malgré ça, je dirais, la Turquie se hissera en demi-finale.
Comme quoi
hein. Tarkan lance ensuite son parfum qu'il choisit d'appeler Tarkan. Ses nouveaux albums rencontrent un succès qui ne franchit plus les frontières turques, malgré un titre pourtant prometteur, Le dernier tir de l'amour. Oui, c'est joli. La dernière trace de Tarkan, si j'ose dire, c'est une sombre affaire de stup. Il sera en effet interpellé par la police, oui, Stéphane, dans le cadre d'une rafle anti-drogue dans le milieu du showbiz turc. Finalement, rassurez-vous, aucune charge ne sera retenue contre lui. En 2016, il surprend ceux qui le croyaient gay en épousant une femme, en lui faisant même un bébé en 2018. Et depuis lors, la mégastar, comme on l'appelait, semble retomber dans une normalité affligeante, puisque, comme nous, il poste des photos de lui jouant à la dinette avec sa fille sur Insta. Il nous parle de l'opération de la patte de son labrador sur Twitter. La seule différence avec nous, c'est que lui a 5,8 millions d'abonnés, ce qui nous rappelle ce qu'a été le phénomène Tarkan. Au son de Kiss Kiss, on est tous forcément un peu nostalgiques de ces longues soirées d'été à la fin des années 90, où cette histoire de distanciation sociale nous aurait semblé sortie d'un roman d'Orwell. Nostalgiques aussi de ces lendemains brumeux, mais heureux, où on émergeait en pestant l'alcool à côté d'une personne dont on avait oublié le nom, mais qui n'était pas aussi belle que la veille dans la lumière du stroboscope. On réalisait qu'on avait oublié de mettre un préservatif. On prenait alors un café, on regardait la mer et on se disait
« Je crois que je suis enceinte ».
Oui, certains étaient évidemment encore plus bourrés que d'autres. Hein. Stéphane, parlez-nous de votre relation à Tarkan.
J'aime bien. Oui. Non, mais j'ai eu la chance de le rencontrer dans ces années-là, quand il était une star turque au top. Et il venait à Paris, Grand Palais, etc. Et puis j'avais fait plusieurs interviews de ce garçon.
Il était sympathique. Alors,
il était plutôt sympathique. Très fabriqué, vous voyez,
visiblement,
très marqué.
Cette fameuse, voilà. Ces textes fabuleux. Hein.
Oui, oui. Mais enfin, si vous voulez, ça n'est pas très loin au niveau du fond de l'interview. Si vous
ah oui, voilà.
J'avais pas l'impression de rencontrer Nietzsche ni Schopenhauer. Enfin, voilà. Merci.
On l'embrasse quand même. Hein.
Oui, bah oui, kiss kiss. Merci Mathieu, c'était 99% vrai. J'ai vu ici ou là des petites perfidies de votre place.
David n'a jamais été enceinte.
Enfin, rarement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. On ne leur fait pas la bise, mais le cœur y est.
Oui Stéphane, le moment est venu de remonter aux origines pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Un monde composé de French Kiss, de rouge à lèvres, mais surtout de poule au pot.
Ah, la poule au pot.
Vous nous donnez la recette, visiblement, ça intéresse
la
Stéphane.
La poule au pot.
Oui. Oh, je l'attendais, celle-là.
Évidemment,
oui.
Il ne sait pas trop comment on fait la poule au pot, parce que tout à l'heure, il vous demandait comment la faire revenir. Donc, je crois qu'on ne fait pas revenir une poule au pot, on la fait mijoter, c'est ça.
Oui, mais vous aurez tous les secrets, mon cher Stéphane. On va manger vos poules, vous inquiétez pas.
Non, non, touchez pas mes poules.
Heureusement, il connaît mieux la langue française que la cuisine. Le mot de la fin, ça sera quoi aujourd'hui, Stéphane, le mot de la fin?
Puisqu'on parle du baiser, j'ai pensé au French kiss. Je vous promets des révélations étonnantes sur le fameux baiser fougueux à la française. Celui où on met la langue.
Ah, celui où on met la langue, nous verrons ça en fin d'émission, quand on pourra se le permettre. Et tout de suite, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines, là aussi d'un objet qui est pile dans le thème de notre émission, le rouge à lèvres.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi continue avec David Castello-Lopez. Chaque jour, l'origine d'un objet qui fait notre quotidien aujourd'hui, puisqu'on parle du baiser dans Historiquement vôtre, le rouge à lèvres.
Le rouge à lèvres. C'est dangereux, le rouge à lèvres, quand même, du point de vue du sexe appeal, parce que sur les lèvres, c'est le comble du glamour traditionnel. Marilyn Monroe, sexualité, mystère féminin. Mais si pour une raison ou pour une autre, il y a ne serait-ce qu'une micro-partie de ce rouge à lèvres qui se retrouve sur les dents, eh bien la dégringolade du sexe à pile est vertigineuse. C'est-à-dire on passe de la voie lactée au carrelage. Le rouge à lèvres sur les dents, niveau sexe à pile, ça a le même pouvoir destructeur que la salade. Et ça doit être hyper angoissant pour les femmes, j'ai pensé à ça, parce que si moi je devais, pour être sexy, porter à quelques millimètres de mes dents une feuille de salade qui soit susceptible de s'y déposer à n'importe quel moment, mais j'aurais peur, ma race. Mais bon, après, comme personnellement j'ai des goûts un petit peu traditionnels, je veux dire que j'aime assez, moi, le rouge à lèvres sur une femme, je trouve ça bien, mais uniquement visuellement. Au contact, non, parce que je vous l'ai déjà dit, je hais le fait d'avoir du gras sur mon visage autant que je hais le nazisme. Et donc, embrasser une fille avec du rouge à lèvres, pour moi, c'est comme avoir des petits morceaux de Goebbels sur mon visage. On s'y fait, mais c'est vraiment pas très agréable. Mais alors, d'où ça vient, le rouge à lèvres, cette idée de se mettre de la peinture sur les lèvres? Bon, vous vous en doutez, c'est ultra ancien. Mais la partie ancienne de l'histoire des objets est toujours un peu ennuyeuse, parce que c'est toujours la même chose. C'est quelquefois les Sumériens, et la plupart du temps, c'est les Égyptiens, etc. Et là, ça ne loupe pas. Les Égyptiens de la haute société, ils broyaient des insectes, ils mélangeaient ça avec de la cire d'abeille, et ils s'en mettaient sur les lèvres, femmes ou hommes confondus, pour montrer qu'ils étaient cool et un petit peu de la haute société. Dans la Grèce antique, ensuite, pendant longtemps, le rouge à lèvres, ça a été associé à la prostitution. Et tellement qu'à un moment, c'est devenu obligatoire pour les prostituées de porter du rouge à lèvres pour qu'on puisse les différencier des autres femmes.
Pratique.
C'est assez horrible quand on y pense. C'est comme si j'étais obligé, moi, de porter mon micro Europe 1 sur le visage pour que tout le monde dans la rue sache immédiatement que je suis chroniqueur à Europe 1. Ce serait triste, vous voyez, puis il y aurait les gens qui ont le micro France Inter, ah, je suis plus cool que toi. Ce serait triste, quoi. Et à partir de là, l'histoire du rouge à lèvres, c'est un tiraillement entre c'est super, c'est noble, c'est beau et c'est un truc de pute. Voilà, c'est vraiment, il y a un tiraillement pendant tous les siècles suivants. Elisabeth Ier d'Angleterre, au XVIe siècle, elle s'en foutait plein les lèvres, au point qu'il y a une auteure anglaise qui dit qu'à sa mort, elle en avait une couche de plus de 1 cm d'épaisseur sur les lèvres. C'est un steak de rouge à lèvres, si vous voulez, sur les lèvres. On ne voit vraiment pas à quoi ça peut servir, aucun intérêt.
Mais aussi, personne ne l'a jamais embrassé, en plus. On l'appelait la reine vierge.
Mais peut-être à cause
on pouvait
de...
pas l'embrasser.
C'est peut-être à cause de ce steak, justement. Mais au siècle suivant, il y a une loi qui est passée en Angleterre et qui a déclaré que utiliser du maquillage, et en particulier du rouge à lèvres, pour convaincre un homme de se marier avec vous, c'était considéré comme de la sorcellerie. Et donc, c'était puni par la loi. Je ne sais pas s'il y a eu un procès pour ça en Angleterre, mais je vois mal comment on peut prouver que c'est grâce au maquillage qu'un homme a été séduit. On fait quoi ? On démaquille la dame et on dit « voyez bien qu'il y a une différence, ça doit être à cause de ça enfin, ». Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé d'archives spécifiques de ces procès.
C'est pour ça qu'on appelle ça un artifice.
Mais oui, c'est ça, c'est un artifice. Mais le vrai âge moderne du rouge à lèvres, celui qu'on connaît, il est né avec l'âge moderne de tout, en fait, c'est-à-dire le 19e siècle. C'est de la fin du 19e siècle que date le rouge à lèvres en bâton. C'est de 1923, un petit peu plus tard, que date ce système que j'adore et qui permet de faire monter le rouge à lèvres en tournant la base du tube. D'ailleurs, au passage, j'imite assez bien le rouge à lèvres qui sort du tube.
Allez-y.
Ça vous dit ?
Je croyais que c'était un bruit.
C'est visuel. C'est personnellement en plus.
Voilà, regardez, c'est pour la caméra ici. Vous voyez ?
Effectivement, sur europe1.fr, je veux dire, c'est un grand moment de radio.
À la radio, ça ne fait pas de bruit. Voilà, donc l'imitation sonore était très bonne aussi.
Aussi, finalement, effectivement.
Puisque c'est le silence.
Vous êtes vraiment au sommet aujourd'hui, David.
Jusqu'aux années 40, le rouge à lèvres, ils avaient quand même un défaut redoutable. C'était que vraiment, il ne tenait pas du tout. C'est-à-dire que vous touchiez quelque chose avec vos lèvres et ça restait sur l'endroit entièrement. Et donc, la dernière innovation importante,
importante, on pourrait dire, en matière de rouge à lèvres, c'est l'invention du rouge à lèvres Kissproof. Kissproof, c'est-à-dire à l'épreuve des baisers. Et ça, ça a été inventé par une dame qui s'appelait Hazel Bishop à New York au début des années 50. Et elle a donné son nom à sa marque. Et pendant des années, Hazel Bishop aux États-Unis, moi je ne l'ai pas connu, hein, mais c'était synonyme d'endurance en matière de rouge à lèvres. Dernière chose, si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre rouge à lèvres chez vous. Mmh. Vous mélangez de l'huile de coco, de l'huile de colza, de la paraffine, de la cire d'abeille, du mica et de l'oxyde de fer. Vous faites sécher ça. C'est dur à dire ça. Vous faites sécher ça dans des moules en forme de rouge à lèvres. Et ça marche. Il y a des tutos sur YouTube. Et comme ça, quand vous dit chérie, t'as du rouge à lèvres sur les dents, ben vous pouvez répondre oui, mais il est fait maison. Donc je t'emmerde. Voilà.
Formidable. Vous retrouverez sur Les Origines en podcast et sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et surtout pour une poule au pot.
Ouais, ce qui est sûr, c'est que les poules ne mettent pas de rouge à lèvres.
Les poules n'en mettent pas, contrairement à certaines poules dont on a parlé dans cette chronique, mais c'est une autre époque. Olivier Pouls nous raconte la recette, l'histoire de la poule au pot, cher Henri IV.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'histoire des recettes. Avec Olivier Pouls, chaque jour, vous remontez aux origines d'un plat typiquement français, souvent, même si parfois on s'aventure ailleurs. Aujourd'hui, c'est typiquement français.
Ici, c'est typiquement français, c'est même béarnais, très probablement. Et surtout, c'est un plat qui a une histoire particulière parce qu'il est très intimement lié à un homme politique, historique, important, qui était Henri IV. Et on prête à Henri IV cette fameuse phrase que vous connaissez tous.
Une poule au pot pour tous les Français.
Pour tous les Français, pour chaque dimanche.
Si Dieu me donne encore vie, je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en mon royaume qui n'ait les moyens de mettre une poule dans son pot. Alors, on lui prête cette phrase. Il y a un petit débat d'historien, savoir s'il a réellement prononcé, parce qu'en fait, on en a parlé un peu plus tard, 50 ans après sa mort, on lui a prêté ses propos, bon, qui l'ont rendu sympathique, parce que l'idée, c'était que chaque Français pouvait effectivement manger de la volaille. Il faut savoir qu'à l'époque, la volaille, c'était quelque chose qui se mangeait assez peu, en tout cas qui était réservé aux gens riches, voire très riches, parce que les gens dans les campagnes qui avaient quelques volailles, ben, ils les gardaient pour les avoir les œufs, et plutôt que de les manger. Et en général, quand ils les mangeaient, c'est qu'elles étaient arrivées très vieilles.
Elles n'étaient plus en état d'être mangées.
Ouais, elles étaient très dures et pas terribles. Et l'idée de la poule au pot, comme le pot-au-feu par exemple, ben, c'est de rendre une viande dure et qui n'est pas consommable simplement grillée, mangeable. Et donc, la première idée de cette poule au pot, c'était de la cuire longtemps dans un bouillon avec des légumes, bouillon qu'on pouvait évidemment récupérer parce que là aussi, rien ne se perd, surtout à cette époque dans les campagnes et dans les cuisines, où le bouillon pouvait donner l'occasion de faire un autre repas. Alors, pour répondre à la question que me posait tout à l'heure Stéphane hors antenne, comment fait-on revenir la poule avant de la cuire? Eh bien, on ne la fait pas revenir.
C'est la réponse. La méthode généralement utilisée, c'est qu'on ne le fait pas. Voilà.
On l'a fait mijoter dans un bouillon.
Ouais. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs recettes aussi. Il n'y a pas une recette officielle de poule au pot, puisqu'il y en a plein de déclinaisons qui va de la plus simple, je vais vous en donner une dans un instant, très épurée, à des versions beaucoup plus complexes qui sont avec une poule farcie de mie de pain, imbibée de lait, avec une farce de jambon, d'abats, de lard et même de truffes. Certains l'ont fait.
Est-ce que Henri IV voulait que chacun puisse manger de la truffe chaque dimanche?
Évidemment, probablement pas. C'était des plats de campagne. Chacun mettait un peu ce qu'il pouvait, ce qu'il avait dans la marmite pour cuire sa poule. Donc, pour en faire une aujourd'hui, une belle poule, 2 kg, 2 kg 2, si vous êtes 4 personnes. Prenez des carottes nouvelles, 300 grammes. Prenez des blancs de poireaux, prenez quelques petits navets, prenez quelques champignons, allez, 300 grammes de petits champignons de Paris. Un oignon piqué de clous de girofle, un bouquet garni et du riz pour l'accompagnement. Et j'y reviendrai dans un instant parce que la cuisson du riz, on va servir du bouillon évidemment, ce qui va parfumer le riz. Donc on démarre la cuisson, Stéphane, prenez bien note, dans une casserole avec l'eau froide. Et ensuite, on monte en température, ce qui va permettre aux chairs de garder du moelleux. Si la plongée tout de suite dans l'eau chaude, elle va se rétracter, vous aurez une chair un petit peu plus ferme. Donc on démarre à l'eau froide, on porte l'ébullition, on écume un petit peu et puis on rajoute les légumes au fur et à mesure en terminant par les légumes qui cuisent le plus vite. Donc on va commencer avec les carottes, les navets, ensuite on rajoutera un peu plus tard les poireaux, on finira par les champignons. Et une fois que tout ça est cuit, vous réduisez un peu le bouillon encore de manière à bien le concentrer et vous vous servez d'une partie de ce bouillon pour cuire votre riz, ce qui va encore le parfumer davantage. Et sera un petit goût de bouillon de volaille dans votre riz. Et puis vous rassemblez tout ça. Et il n'y a pas besoin d'attendre dimanche pour le faire.
Je ne pensais pas être excité par une poule au pot un jour, mais décidément, Olivier, vous avez l'art de nous raconter nos bonnes recettes françaises. Merci beaucoup. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Dans un instant, le mot de la fin nous attend, celui de Stéphane. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane, c'est un peu chaud.
Oui, absolument. Le French kiss, tout ça vient.
tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Et l'histoire, c'est aussi l'histoire des mots. Chaque après-midi, on termine cette émission avec la séquence de Stéphane, le mot de la fin, l'histoire d'une expression.
Oui, bah, le baiser.
Bah, oui.
Pourquoi est-ce que les Américains appellent ça le French kiss?
On voit tout ce que c'est autour de la table. Hein. J'imagine que l'expression est plutôt récente. Pour une fois, on ne va pas remonter jusqu'au Moyen-Âge.
2014.
What?
C'est en tout cas l'arrivée du French kiss dans le Petit Robert.
Oui, d'accord.
On peut y lire « embrasser avec la langue galocher ». Bon, sachez d'ailleurs qu'une galoche, c'est une chaussure à dessus de cuir et semelle de bois qui se porte par-dessus des chaussons. Le galochier était le vendeur de chaussures et galocher, c'est faire du bruit en marchant avec... Mais c'est vrai que certaines embrassades sont plus bruyantes que d'autres. Donc en fait, quand vous dites une galoche,
c'est le bruit, bah,
il faut
fait.
Qu'il y ait le bruit. Mmh. Voilà, le bruit.
Mais le bruit des galoches, c'est un truc qui ressemble un peu à une langue parce qu'on...
Qui a fait ça?
C'est Stéphane Bern.
C'est vous, Stéphane, qui avez fait ce... Oui. Ah oui, ah, vous faites bien.
C'est le bruit des galoches.
Sans une certaine expérience dans la galoche.
Revenons à notre French kiss. Les Américains sont persuadés que la pratique est une invention française au 18e, au 19e siècle. La mobilité transatlantique se développe et notre réputation aussi. Il faut dire que les Yankees qui font le voyage en France sont non seulement plutôt aisés, ça favorise les rapprochements, et qu'en plus, ils ont longtemps évolué dans une religion puritaine et assez peu, ils ont très peu fait la bamboche, il faut bien le dire. Pour eux, embrasser signifiait épouser. En revenant de chez nous, ils disaient « quand vous êtes en France, faites-vous embrasser par les femmes ». Cela a même donné naissance à l'expression « get a French kiss ». En Angleterre, « French kiss » est même un verbe. On peut dire « I French kiss her to French kiss ».
Oui.
C'est un verbe.
Je sais, mais ne regardez pas comme ça avec David dans nos échanges à l'étranger. On a beaucoup joué là-dessus.
Ah hein. Oui, très bien.
« French kiss » un petit peu.
Sûr.
Restons modestes. En fait, le baiser fougueux ne nous appartient pas.
Ah mince.
Il est déjà décrit dans le Kama Sutra, écrit 500 ans avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, prenant possession de l'Inde, le rapporte en Méditerranée. Et ce sont vraiment les Romains qui ont lancé la mode du French kiss en Afrique et en Asie. Mais chut, continuons de penser que c'est nous, Français, qui l'avons inventé. Pour une fois qu'on parle de nous en bien.
On disait un palo quand j'étais...
Rouler un palo,
rouler un patin.
Mais ça, c'est ça a complètement disparu. Hein.
Oui, c'était smack ou palo.
Ah, smack, c'était la première étape.
Et ensuite, il y avait le palo. Alors, mais smack ou palo? Moi, je dis mais palo.
Oh, toute une époque quand même. Et oui, en tout cas, avec Stéphane, on aime tellement ça.
Baiser.
Qu'on a enfin trouvé comment y consacrer une émission entière. Notre spécial Les pros du baiser se termine. Alors, à l'heure du bilan, quel amateur de baiser vous a le plus épaté, Stéphane? Clint et son baiser en peinture dorée, Robert Doisneau et son baiser de l'Hôtel de Ville, ou Tarkan et son...
Écoutez, les deux premiers, voilà, Klimt et Robert Doisneau.
Dans l'histoire de l'art, vous les citez un
grand plus
Tarkan.
Haut que Tarkan, ouais, oui, ouais. Oui.
Vous avez des goûts particuliers.
Vous savez, si les gens ne disparaissent pas pour rien.
Oh, le pauvre, s'il nous écoute, c'est triste.
Il a 5 millions d'abonnés sur Instagram.
Il a vendu 29 millions d'albums, donc je pense qu'il a de quoi se retourner. On se serre la main, même si ça non plus on n'a pas le droit. On se retrouve demain, Stéphane.
Absolument. Demain, ils se sont écrits un peu, beaucoup, à la folie. On réunit des amoureux par lettres interposées. Georges Clémenceau et Marguerite Waldensperger, les écrivaines amoureuses des mots qui se sont beaucoup écrits, Virginia Woolf et Vita Sackville-West.
Et eux aussi se sont beaucoup aimés et écrits également, surtout une lettre de rupture, le rappeur Tupac et Madonna. Vous verrez ça. Alors à demain les amis.
À demain Mathieu.